France Inter.
Bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qu'on suit depuis longtemps et qui continue de tracer une route singulière dans la musique électronique française. Il s'appelle Crayon, producteur, compositeur, et il vient de sortir un très beau premier album intitulé Home Safe, un disque à la croisée de la folk, de la soul, du R&B, où chaque morceau semble vouloir recréer un sentiment simple, celui du refuge. Crayon, beaucoup l'ont découvert au sein du label Roche Music, aux côtés de Dabeul ou de Hichon après, dans cette génération qui a redonné des couleurs à la musique électronique française, quelque part entre club et confession, et avec ce premier album, il passe un cap, celui d'un artiste complet qui ne se cache plus derrière ses machines mais qui raconte enfin son propre monde. On va parler de cet album, bien sûr, de son processus de création, de ses inspirations et de ce que veut dire rentrer chez soi quand on fait de la musique qui voyage autant. On est avec Crayon pendant une heure à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Comment ça va, Crayon ?
Ça va super, et toi, Mehdi ?
Très bien. On parlait un petit peu hors antenne, on s'est rencontrés il y a longtemps, dans un club où tu jouais, qui s'appelait le Dandy, à Pigalle. Un club qui n'existe plus aujourd'hui, c'était au début des années 2010. Aujourd'hui, tu sors ton premier album. Évidemment, entre ces deux événements, il s'est passé beaucoup de choses. T'as commencé à faire de la musique, t'as sorti des projets. Comment se fait-il que ce premier album n'arrive que maintenant ?
Je pense que j'ai toujours fantasmé et sacralisé le fait de faire un album, et je pense que déjà à l'époque où on s'est rencontrés au Dandy, je savais que je serais a priori pas chanteur, interprète, tout enfin, ça.
On se rencontrait pas, toi t'étais un DJ, tu me calculais pas, moi j'étais devant et toi t'étais avec...
Il y a une photo qui prouve le contraire.
C'est vrai.
On la mettra là comme on
fait. Très bien au montage.
Soit je calculais personne parce que dans ma tête justement j'allais faire un album digne de Discovery, soit au contraire j'étais juste content d'être là parce que déjà faire de la musique... C'était déjà un truc de ouf pour moi qui ne vient pas du conservatoire, qui joue pas d'instrument, etc. Ouais. Donc, en fait, pour répondre à ta question, bah, il m'a déjà fallu le temps d'apprendre à faire de la musique.
Ouais.
Et ensuite, dans cet apprentissage, comprendre comment raconter un truc personnel quand tu n'es pas chanteur, ni vraiment songwriter. Et j'ai eu la chance de travailler avec énormément d'artistes en faisant leur disque avant, quelque part aussi pour comprendre comment incarner un album à ma manière. Et voilà, ça a pris tout son temps.
Je l'ai dit un petit peu dans l'introduction, on t'a beaucoup associé à Roche Music, enfin tu faisais partie de cette équipe-là. Roche Music, il y avait un côté évidemment très chaud, très feel-good, très disco sur ce premier album-là. Non pas que ce soit pas feel-good, mais c'est un peu différent justement, je trouve, dans le mood que t'as recréé. Et ce premier album-là, il ressemble notamment à ça. I've killed my Extrait du titre, donc Kill Your Idols. Qu'est-ce qui a fait que justement ta première proposition, en tout cas en tant que sur un long format sur cet album, ce soit différent justement de ceux pour lesquels on pourrait te connaître un peu rapidement? Si on connaît pas bien ta musique, on va imaginer Crayon comme quelque chose peut-être de beaucoup plus, presque même de disco.
Ouais,
alors
sûr.
Que t'es évidemment pas que ça, mais cet album surtout est très différent.
En fait, c'est vraiment la musique que j'ai toujours rêvé de faire, aussi toujours écouté. Je pense que ça a fait partie du processus. À l'époque de Roche Music, ça s'est créé, j'avais 21 ans.
Ouais.
On sortait beaucoup, on se croisait en soirée. Il y avait ce truc hyper, innocent, on célébrait vachement.
Hédoniste aussi, peut-être.
Exactement le mot que je cherchais, c'est exactement ça. Et en fait, c'est une partie de ce que j'aime, et ça m'a, tu vois, quelqu'un comme Darus, Cartel, FKJ, Dabeul, j'ai appris énormément à leur côté, j'ai appris à faire de la musique avec tous ces gens. Maintenant, pour trouver ce que moi je voulais dire et tout, ça a été plus long. Et tu vois, il y a eu un gros passage dans le rap quand même, et qui était déjà différent, tu vois, dans les codes et dans ce qui allait être raconté aussi. Et en fait, je sais pas, ça m'a. C'est bête à dire, mais je me suis beaucoup plus trouvé en fait à la croisée de tous ces chemins. Pareil, tu vois, en antenne, on parlait de Josman, Easy Jew, ces rencontres.
T'as travaillé avec Josman notamment, voilà.
Ouais, rencontre extraordinaire, déjà d'un artiste immense, mais aussi humainement. Quand on a fait Intro, je me rappelle que c'est un morceau qu'on a fait en journée. Il m'a vachement dit, mais regarde, tu vois, tu peux très bien travailler la journée sainement et pas être là la nuit dans un truc un peu torturé. Et en fait, tout ça pour dire que je pense que la vérité se situe un peu à la rencontre de tout ça. Et j'ai eu besoin d'énormément me chercher, mais c'est vrai que le son roche tel qu'il était, je me suis jamais complètement retrouvé dedans. Et en même temps, ça, c'est une telle famille au sein de laquelle j'ai évolué, et ce sera toujours une famille pour moi, tu vois. Mais je pense que ça raconte autre chose aussi, ouais. Et ouais, ça pour moi j'avais besoin de le raconter.
Je crois que cet album-là, t'as commencé à travailler dessus presque depuis le Covid.
Ouais.
Qu'est-ce qui a débloqué aussi cet album-là ? À quel moment tu te dis, bon ben, là il faut y aller, là je vais le finir, là il va ressembler à ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vraiment tu décides à conclure ce projet ?
Bah justement, il y a eu plusieurs ruptures entre guillemets, notamment celle avec Roche déjà, parce qu'après l'album avec Dune, moi j'ai eu besoin d'aller voir ailleurs et j'ai trouvé ce label qui est IRS Tapes.
Qu'un label très identifié, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a vraiment presque un son à part, un peu comme Roche dans un registre très différent.
Complètement.
Mais Roche c'est une signature musicale et IRS Tapes en est aussi une autre très différente.
C'est complètement ça, et j'adhérais plus à cette signature là que tu décris d'un coup, ce côté beaucoup plus introspectif, cette musique instrumental aussi, parce que j'avais vraiment besoin d'exprimer mon truc sans forcément faire appel à des gens. Bon, au final, ça a été un gros album de featuring, mais c'était pas l'idée au départ. Et je pense que quand je suis retourné habiter, du coup, bah, chez ma mère à la maison en sécurité, parce que c'est un peu ça que ça a fini par raconter. Ouais. J'ai commencé à regarder l'album se faire un peu comme ça, un peu tout seul aussi, dans ce cocon. Et voilà, je pense que c'est un peu comme ça que ça a pris cette forme. Et des musiques comme la folk que j'écoutais quand j'étais gamin, comme évidemment il y a beaucoup de soul, de R&B, de hip-hop, de trucs comme ça, mais c'est devenu un peu le genre socle,
la folk,
le truc un peu intimiste. Je voulais vraiment que ça raconte un peu cette chambre dans laquelle j'étais, tu vois, et forcément bah ça raconte plus du tout la même chose que
mais tu parles de rap, évidemment il y en a, ou en tout cas il y a des artistes qui viennent du rap, même si maintenant ils font des choses très différentes, et je pense notamment à Swing sur le morceau Cristaux Liquides.
Je caresse ton visage sur les tentatives. Que reste-t-il du paysage? Et moi, que reste-t-il?
Un artiste que j'aime beaucoup, Swing, un artiste belge avec qui tu as déjà travaillé dans le passé. Est-ce que sur cet album-là aussi, il y avait une volonté de retrouver tes potes aussi et de les faire rentrer un peu dans ton refuge à toi, en tout cas, parce qu'on retrouve voilà, l'Osso Pardo, des gens avec qui t'as déjà travaillé dans le passé, en fait.
Ouais, bien sûr. C'est complètement ça. En fait, même les gens qui sont pas mes potes, comme on va dire Rai ou Eliza, c'est des gens dont je suis fan et qui ont inspiré ce disque. Donc, imagine un peu cette grande réception avec tous les gens que t'aimerais avoir. Enfin, tu vois, j'avais besoin aussi de cette chaleur humaine. Et je pouvais pas le faire tout seul, j'avais pas le moral à le faire seul. C'est hyper ambitieux déjà faire un disque de producteur, je trouve, et encore plus quand il a cette volonté d'être autant instrumental que chanter. Et je me suis dit, attends, mais t'es pas R, mec, t'es pas Sébastien Tellier, tu vas pas y arriver, tu vois, genre, pense à un format.
Et pourquoi pas ? Parce qu'en fait, j'ai le sentiment aussi que tu parlais d'être torturé, etc., qu'il y a toujours ça chez toi. Il y a un peu ce côté où tu l'as dit, où tu te poses des questions, en fait, tu te poses toujours beaucoup de questions.
Extrêmement, extrêmement. Mais
tu t'interdis de chanter ?
J'ai essayé, mais je suis trop confronté au talent que tu cherches.
Que je cherche,
et puis ceux que je côtoie, surtout, tu vois, on parle de Josman, il y a 5 minutes, retrouve-toi en studio avec des mecs qui ont cette maîtrise-là de tu vois, de leur voix, tout simplement, de comment ils la posent et tout. Moi, je crois au pouvoir de la spécialisation. Tu vois, je pense que si tu mettais 10 000 heures dans un truc, tu peux devenir bon, tu peux devenir pertinent. Et moi, je pense que Ableton Live, c'est devenu un peu mon instrument à moi. Ma voix, parfois, ça me rend triste, mais de me dire dans cette vie, peut-être que je n'explorerai jamais ce fantasme avec lequel j'ai grandi du singer-songwriter. Et peut-être que ça me rend torturé aussi, tu vois. Okay. Peut-être que j'ai cette petite place, tu vois, du producteur qui a envie de... qui a besoin de sa reconnaissance aussi. Tu vois, c'est un rôle un peu de mec de l'ombre que je sais pas à quel point
je sais pas si tu l'assumes complètement.
Exactement. Okay. Si je suis honnête, je sais pas jusqu'où je l'accepte.
Okay. Bon, tu parlais de vous, en tout cas, je te propose qu'on écoute un morceau avec Yamé.
Ouais.
Quelqu'un qui gère plutôt bien sa voix.
Ça, c'est une voix.
Exactement. C'est le morceau qui s'appelle Home Safe, justement, le morceau éponyme. Pourquoi tu le voulais sur cet album et sur ce morceau éponyme en plus?
Parce que Yamé, il fait de la musique en France qu'on n'a pas encore entendu en France. Ouais. Et on parlait de ça tout à l'heure en off, on parlait d'un immense artiste pour moi qui est Onra.
Ouais.
Et moi, j'ai cette frustration, et c'est aussi un truc que j'ai vécu avec Roche Musique, où je trouve que parfois on a des talents français qui sont parce qu'ils correspondent pas forcément au code de la musique française telle qu'on l'imagine ou au hype actuel. Et je trouve ça très dommage. Et en fait, quand Yamé est arrivé, ça a pas été. Enfin, le moment où on a fait Home Safe, c'était pas du tout l'explosion qu'on lui a connue après.
Ok. Avec Bécane notamment, bien sûr.
Mais Bécane qui était déjà sorti. Et ça, c'est très français. Je pense ouais. à FIVE or Feel Better de Phoenix qui passait sur les ondes de voltage quand j'avais 11 ans. Et d'être fou en écoutant ce morceau à la radio. Puis après, il est plus passé. Et à l'époque, comment tu voulais retrouver un morceau, tu vois? J'ai dû attendre 2, 3, 4 ans que cette chanson, elle retrouve sa. Sa vraie hype. Breakbot, il te racontera ça avec Baby Amiens, qui a mis 3 ans à devenir un tube. Alors Bécane, c'était plus rapide parce que les réseaux, mais c'était pas immédiat. Mmh. Et donc moi, je rencontre ce mec, c'est encore un outsider. Et j'étais mais complètement, tellement séduit. Et je me disais, mais c'est vraiment de la musique comme ça qui nous manque en France. C'est ce truc singulier. Tu vois, ça fait combien de temps qu'on avait Young Thug déjà ou King Krul. Enfin, tu vois, quand tu regardes par rapport à des pays, il y a ces identités fortes, notamment vocalement. Et c'est rare que j'ai le flair, c'est bizarre à dire en tant que producteur à une émission, mais c'est rare que je dise ça. Souvent même quand je dis ouais, ça va pas péter, ça pète. J'ai le flair inversé, tu vois.
Okay. Mais Yamé, tu l'as eu.
Mais Yamé, je l'ai eu et je dis toi, passe au studio. Bon. Et il est passé et c'était génial.
Eh ben on écoute ça tout de suite, Crayon, Yamé, Home Safe.
Toi t'y crois, ils nous ont laissé dans le froid. Moi je crois que ce que je vois est... Mola parlons peu mais parlons vrai. J'ai le crayon, j'écris l'avare. Forcément jamais ne pourrons nous faire. Tu sais qu'il est tard, Roche roule en terre. Fox prend la tête, verte violente. L'aide violette et sa loupe.
Are they gonna come save us? Try to get home safe. We came confused in everything. Try to confront it. Try to come forth with your truth. Don't fuck with it. But I don't wanna see less.
Morceau Home Safe, donc tiré bien sûr de l'album éponyme de notre invité du jour, Crayon.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Crayon, tu es notre invité ce soir. L'album s'appelle Home Safe. Et dans Home Safe, j'imagine qu'on recherche un peu ce. Voilà, je parlais du refuge, de confort, retrouver une forme de cocon. Je vais donner des situations. Tu me dis si elles sont confortables ou pas pour toi. Ce qui permet de mieux te connaître, évidemment. Produire, faire de la musique à 4 heures du matin, c'est confort ou pas?
C'est confort absolu.
Ah ouais, t'aimes travailler la nuit?
J'ai besoin de travailler la nuit parce que j'ai besoin de quitter un peu la terre, quoi, tu vois, quand je fais mon... Enfin, encore okay. Un truc archi cliché d'artiste torturé, mais tu me dis 4 heures du matin, je me revois cette nuit comme ça, en pyjama, là. Et ouais, confort total.
Créer dans le silence total, sans lumière, sans rien.
Confort absolu.
Ah ouais, mais tu vas vraiment pas bien, en fait.
Mais au contraire, je pense que c'est terrible. Pour entendre... Non, justement, j'ai trouvé l'apaisement là-dedans, mais oui, ça passe okay. Un truc super torturé, au contraire, non, silence, calme. J'ai du mal en studio quand c'est le bordel derrière, tu vois.
Ouais,
je suis un peu devenu ce daron-là.
Ouais, il faut que ce soit...
Ouais, calme. C'est vraiment important.
Partir en vacances, ou ailleurs d'ailleurs, une semaine sans musique, sans écouter de la musique. Je dis pas sans en faire, sans en écouter.
Non, pas confort.
Ouais.
Ah non, pas confort.
T'as besoin d'en avoir avec toi tout le temps.
Non, et c'est pour ça que j'aurais pu un peu, tu vois, choisir la réponse un peu plus sensationnaliste et dire parce que j'ai besoin de silence et j'écoute pas toujours de musique, j'écoute rarement même de la musique en vrai chez moi et tout. Mais voyage et musique, il y a un truc qui est obligé de se passer. Enfin, moi j'ai voulu faire de la musique pour ces moments-là où j'ai dû voyager gosse, ouais. Où c'est que tu prends l'avion, t'écoutes les radios de.
Local et tout.
Local, les radios dans l'avion même, tu vois. Ouais, et tout. Moi j'ai découvert trop de musique comme ça. Donc non, voyage et musique, c'est. Ça va tellement ensemble, c'est inévitable, confort d'en avoir. Inconfort de ne pas en avoir.
On a reçu il y a quelques semaines ici Aneta, qui est une productrice et DJ, qui voyage beaucoup aussi, qui racontait la complexité que ça peut être, même si évidemment elle est heureuse du métier qu'elle a et que c'est une chance, hein, mais que ça peut vraiment être dur, justement, les voyages, le rythme. Comment tu le vis, toi ? Parce que tu dis que tu as aussi fait ça pour voyager, et j'imagine que ça doit être excitant de voyager avec ses amis, etc. Mmh. Mais parfois la vie d'un DJ aussi, parce que tu es aussi DJ, c'est voyager seul. Comment tu vis, toi, ce rythme-là ? Est-ce que c'est plutôt du plaisir ou est-ce que parfois il y a aussi ce poids
Ah, moi, je suis team poids, mais du coup, c'est pour ça que je fais la musique que je fais et que j'ai choisi cette voie-là, ouais. Qui est quand même d'être beaucoup plus en studio et beaucoup plus dans un processus créatif constant. Parce que le truc que je vivais le plus mal avec le fait de devoir partir faire des dates, attention, hein, j'ai jamais vécu des tournées type DJ Snake, Avicii, tout ça, hein, mais même à mon échelle. J'étais quand même tellement bien dans des moments de création, typiquement à 4h du matin, et d'un coup il fallait prendre un avion. Et ça m'a souvent arraché à ces moments-là où du coup j'étais frustré par rapport au fait de pouvoir produire. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que cette casquette de producteur me va très bien. Je tourne quasi plus, je voyage très peu. Mais je suis trop content de l'avoir fait dans ma vingtaine, ça a été une chance immense. Et comme tu l'as dit, avec mes amis, en plus qu'on l'a fait avec Roche. Et beaucoup plus ailleurs qu'en France. C'est aussi le bon côté d'avoir été peut-être un petit peu snobé ici, c'est que... Tu vois, voir l'Asie, voir tous ces endroits-là, c'était extraordinaire. Mais je souhaiterais pas forcément le refaire.
Parce que c'est vrai que Roche Music, qui est un label qui est effectivement très identifié, rempli de succès, est parfois bien plus identifié au Japon, ou je crois en Californie, par exemple aux États-Unis, qu'en France. Tout, en France, ça existe évidemment. FKJ remplit les Olympiades, Double aussi. Mais je veux dire, c'est pas forcément aussi gros que ça allait à l'étranger.
Ouais.
C'est ça qu'on ne sait pas forcément.
Bah, du coup, moi, j'y étais directement confronté. Et c'était vraiment surprenant. Typiquement, tu vois, tu parlais de Los Angeles, du Mexique, de la Corée. C'était fou d'aller peut-être, je crois, plus souvent jouer à Séoul qu'à Toulouse. Et en même temps, moi, je suis un amoureux de la musique francophone aussi. Et peut-être que j'étais frustré de ça à un moment. Et donc maintenant, je suis content de rester un peu du côté de chez moi, quoi.
Bon. On est avec Rayon ce soir pour parler de l'album Home Safe. On était en train de parler de Roche Music justement, et je propose qu'on s'écoute un extrait d'un morceau que j'aimais beaucoup, You and I. So you know what I'm talking about you and I, you and I. So you know what I'm talking about. Ça, c'est un morceau qui s'appelle You and I, comme je le disais. FKJ, Darius, Wayne Snow et toi-même être crédité sur ce morceau. Et c'est vrai que dans Roche Music, il y avait cet esprit de groupe, en tout cas qu'on imaginait. On vous imaginait tout le temps ensemble. Aujourd'hui, dans ce que tu décris, tu as l'air d'être peut-être plus seul dans la création. Mmh. C'est là où justement, toi, tu as eu l'impression de t'accomplir, peut-être dans une forme de. Presque même d'obsession un peu solitaire, de creuser des sons, de tenter des choses. C'est là où tu t'es accompli en tant que musicien.
Ouais, grave, ça fait du bien, la promothérapie comme ça, toujours merci.
Je t'en prie.
Parce que c'est vraiment ça, en fait. Et je l'avais pas autant conscientisé, tu vois, là, j'entends ça. Et je revois le moment où on est tous en studio, en train de jammer, en train de le faire, et ça s'entend, tu vois, on est en train de tout kiffer, c'est de la musique de kiffer, c'est génial. Est-ce que moi tout seul j'incarne ça? Bah, comme tu peux le voir un peu au fil de l'entretien, pas trop. Et c'était un moyen de s'assumer déjà, tu vois, de plus planquer derrière tes copains, tu vois, les grands du collège, et toi t'es un peu en sixième, et vas-y c'est cool, ils vont te défendre et tout. Bah en fait, à un moment donné t'es grand aussi, et je pense que j'ai toujours été assez impressionné par les skills et le succès de chacun, tu vois. FKJ, Darius, c'était mes grands en fait. Et c'est cool, c'est des moments, tu vois, j'espère qu'on va en revivre d'autres, ces moments-là en studio et tout, mais c'est vrai que y a quelque chose en moi que je pouvais pas raconter autrement qu'en faisant un disque un peu seul. Alors, avec encore une fois tous les invités, tous les gens qui m'ont aidé à le faire, tous les musiciens aussi, tu vois. Il y a Danny Lascar, dont il faut absolument parler, parce que c'est The Hop, un groupe dont j'étais fan.
Ouais, The Hop.
Tu vois, immense projet français aussi. Et Danny, le guitariste de The Hop, est présent sur tout l'album. Il est là à chaque moment de création que j'ai et tout, donc je suis jamais complètement seul. Mais c'est aussi de pouvoir raconter ton truc. Et je pense qu'à un moment donné, faut s'assumer, faut le dire, et tu peux pas forcément le faire quand quand t'es caché derrière les mots d'un grand rappeur, ou quand t'es caché derrière la musicalité d'artistes, tu vois, déjà accomplis et reconnus pour un son comme Dabble, FKJ, Darius. Et donc, c'est vraiment un moyen d'affirmer mon truc, tu vois, tout simplement, et ça doit se faire un peu seul, forcément. Sinon...
Sur l'homme, il y a aussi tout un aspect visuel qui est important, dès la cover. Toi, je sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, t'es dessinateur aussi. T'as commencé comme ça,
j'ai
en tout
commencé
cas.
Comme
quand
ça.
On lit la bio de Crayon, en tout cas, c'est peut-être plus comme ça que tu te décris aujourd'hui, parce que je pense que la musique a pris toute la place. Mais en tout cas, t'as aussi ça. Est-ce que ça a été aussi une manière pour toi de développer l'aspect visuel? Est-ce que c'est quelque chose que t'as dessiné ou en tout cas pensé avant de le faire? Enfin, comment ça s'est mis en place, cet aspect-là?
Ah, ça a toujours fait partie de mon fantasme créatif. Je me vois pas... Enfin... Déjà, on a toujours grandi, je pense, avec des visuels forts, tu vois, toi, comme moi, tu ouais. t'imagines, je sais pas, on a eu entre 10 et 15 ans quand t'as eu Discovery de Daft Punk qui est sorti.
Ça fait deux fois que tu cites cet album, hein.
C'est mon album, en ce moment, j'y reviens énormément.
Je m'excuse déjà auprès des auditeurs et auditrices parce qu'on parle de Daft Punk dans toutes les émissions. Mais c'est ok, il y a pire comme sujet, mais c'est... vraiment ils sont mentionnés tous les jours, je crois.
Eux c'est la musique, quoi, tu vois, tu peux pas ne enfin ça Pharrell Williams de coup, enfin comment tu peux, il y a des trucs qui sont, c'est inévitable. Et en plus on y revient, je trouve, avec ce Revival 2000 aussi, tu vois, le son Neptune, il est partout à nouveau. Et donc moi, bah forcément, ça me fait replonger même dans, tu vois, l'album de remix qu'il y avait Discovery, t'avais un remix de Slum Village, t'avais un remix de Neptunes.
Exactement.
Et toutes ces rencontres-là, ces hybrides-là de cette époque, enfin moi, en tout cas, j'y reviens beaucoup, mais il y avait des visuels très forts à cette époque, il y avait dans une autre esthétique, mais tu vois, le côté musique et image avec Sofia Coppola et Thomas Mars, des films comme Virgin Suicide, qui m'ont traumatisé. Et j'aurais jamais fait de musique si j'avais pas... eu ces visuels. Et quand je dessinais, surtout à l'internat, quand j'étais au lycée, je passais des heures à écouter de la musique, c'était impossible de dessiner sans l'impulsion de quelque chose à écouter. Donc je suis obligé, en fait, si j'ai pas une image en tête et même un concept, il y a pas vraiment de musique qui en découle. Et ce, même quand je fais de la musique pour des gens, on parlait de morceaux comme AVG Performance de Dinos. C'est des morceaux où la couleur du morceau, du synthé même, elle est directement inspirée par comment j'imagine la musique du gars, de tout l'univers que je lui prête. Donc il y a un peu toute une pièce à chaque fois qui se forme, et après c'est genre ok, bah on va la décorer de cette manière, et c'est vraiment visuel, le processus, tu vois.
Est-ce que le cinéma t'influence ou pas forcément? C'est vraiment toi et tes propres inspirations et ton propre cerveau.
Si bien sûr, tu vois, je t'ai pris Virgin Suicide comme exemple. C'est autant l'étalonnage, l'aspect visuel, les textures visuelles que la musique. Donc vraiment pour moi c'est indissociable, et c'est pour ça que l'aspect visuel il démarre quasi quand je démarre un projet, en fait.
Il y a un autre morceau sur cet album Home Safe, c'est le morceau Diamond Miner. Je me suis réveillé avec ça ce matin, moi.
Trop bien.
Ouais. Est-ce que tu vois ça plutôt comme une musique du matin ou plutôt une musique nocturne?
Je vois vraiment ça comme une musique nocturne.
Ok. Parce que c'est lié à toi, mais c'est vrai, je me demandais comment toi tu voyais ça, parce que moi, peut-être parce qu'on n'a pas la même vie, je vois ça plutôt comme quelque chose de matinal, tu vois, quand j'écoute ton album.
Je trouve ça génial, parce que j'y vois une connotation hyper. Tu vois, c'est le matin, c'est le renouvellement, tu vois, il y a un truc, je trouve ça hyper positif. Déjà, moi, je suis pas trop du matin, et je sais pas si moi ça me foutrait pas un peu le blues, tu vois, d'écouter ça le matin. Je pense que j'ai besoin de trucs, si je dois écouter quelque chose, qui vont quand même me mettre dans un mood. Tu vois. Non, pour moi c'est nocturne, et c'est assez écoute solitaire aussi. Je suis pas sûr que j'écouterais ça avec du monde dans la pièce.
Ok. Puisque tu parles de groove, je propose qu'on écoute un morceau. Alors, pas issu de l'album, mais est-ce que tu connais l'artiste Obong Jayar ?
Ouais, bien sûr.
Je savais que tu connaissais. Ouais. Et je propose qu'on écoute un morceau justement qui finalement aurait presque pu sortir sur Roche Music à l'époque, tu vois. C'est le morceau qui s'appelle Just Cool, okay. Qui est vraiment un morceau qui fait du bien, justement, qu'on peut écouter le soir, le matin, et qu'on va écouter en tout cas tout de suite aujourd'hui à 22h et quelques. Obong Jayar, Just Cool.
C'est fou que tu mettes ça parce que c'est le prochain feat que je convoite.
Ok,
genre,
incroyable.
Je suis complètement en train de sélectionner des instruments. Quoi.
Ah.
Why can't you cool? Just let me cool. Walking explosives, stressing all of the time. Why can't you cool? Just let me cool. Don't sucker, sucker, don't take me for no sucker. I just want to cool. Just let me cool. Don't sucker, sucker, you're such a motherfucker. Just let me cool. I just want to cool. On your doorstep, don't let me in. Take off your shoes, keep my house clean. Spread your silence for all them that we disease. The government man keeps smothering, it's so hot.
On est avec Crayon ce soir et on vient de prendre énormément de plaisir à écouter ce morceau Just Cool 2 au Obong Jayar.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Quel plaisir en effet, et tu le disais au moment de lancer le morceau, c'est que t'aimerais bien collaborer avec lui en plus.
C'est vraiment le featuring convoité du moment. Et
c'est fou.
Et je le dis ici et maintenant, j'ai un début de... C'est très rare, j'ai pas de prod prête en avance. Mais là, comme je compte vraiment lui en envoyer, j'ai mis 3-4 trucs dans un petit dossier, genre...
Ah ouais.
Un morceau avec Obong Jayar.
Ouais, ouais, donc on a visé juste là, parfait.
Ultra juste.
Bon, parfait.
C'est extraordinaire.
Alors,
et quel morceau.
Incroyable. Alors, l'actualité, bien sûr, c'est ton album, mais c'est aussi la sortie du film de David Tomaszewski avec Aurel San dans le rôle-titre, aujourd'hui même. Et donc, je me suis dit, j'allais revenir sur quelques rôles marquants de rappeurs au cinéma. tu me dis si ça t'inspire ou pas. Et j'ai envie de commencer avec celui qui, pour moi et pour beaucoup, est sûrement celui qui a été un des plus illustres, c'est Tupac, qui évidemment, d'abord, c'est un rappeur mythique, mais c'est avant de devenir l'icône même du rap West Coast, il a été formé comme comédien, il étudiait le théâtre à Baltimore, il a joué du Shakespeare, il a toujours eu l'idée que l'expression scénique, quelle qu'elle soit, faisait partie un peu de son expression artistique, et donc en 1992, il explose au cinéma avec Juice, où il joue Bishop, un ado charismatique, magnétique et dangereux, un rôle presque mythologique, où la rage qu'il exprime dans ses textes trouve un exutoire visuel, la performance est si puissante que certains critiques s'emballent et lui prédisent une grande carrière de comédien.
I am crazy. But you know what else? I don't give a fuck. I don't give a fuck about you. I don't give a fuck about Steel. And I don't give a fuck about Raheem either. I don't give a fuck about myself. Look, I ain't shit. I ain't never gonna be shit. And you less of a man than me, so soon as I decide that you ain't gonna be shit.
Ça, c'est sûrement son rôle le plus marquant. Et puis après, il y a eu Poetic Justice avec Janet Jackson, Above the Rim, Gridlock avec Tim Ross. Et à chaque fois, Tupac surprend. Il incarne tour à tour le bad boy, le romantique, le junkie désabusé. Il meurt, comme on le sait, à 25 ans, en 1996. Et son dernier film sera Gang Related avec James Belushi. Sa carrière d'acteur laisse entrevoir un « et si » fascinant. Et si Tupac avait survécu, il aurait peut-être pu devenir l'un des acteurs les plus en vue des années 2000. Broke late night, hanging out till the sunrise, getting high, watching the cops roll by. It ain't easy. That's right. It ain't easy. Un morceau qui s'appelle It Ain't Easy, présent sur Me Against the World, un morceau que j'adore de Tupac. Est-ce que c'est un artiste important pour toi ou moins, Tupac? Est-ce que tu l'as écouté, peut-être vu aussi dans des films?
Eh bah non.
Ok.
Ça faisait partie des trucs où j'ai fait impasse.
Ouais, ouais.
Alors que j'avais plein d'autres rappeurs préférés. Je crois que je me suis jamais pris sa musique.
Ok.
Là où son perso est extra.
Oui, oui.
Tu vois?
T'as peut-être déjà eu un t-shirt Tupac, mais t'as pas forcément, tu vois.
Mais alors que j'adorais Nas, par exemple, ouais, ouais, tu vois, quand j'étais gamin, et je pense que c'est vraiment un truc strictement musical.
Eh bien, tu me fais une transition parfaite, car 2 ans après la mort de Tupac, en 98, le réalisateur Hype Williams signe Belly. Donc, un film culte, parfois incompris, qui met en scène DMX et Nas, donc, l'histoire deux amis d'enfance plongés dans le trafic qui cherchent chacun leur rédemption. Mais Belly, c'est pas tant un scénario qu'une atmosphère, c'est un clip géant, un rêve un peu humide de fin de siècle, des éclairages bleus, des ralentis hypnotiques, des visages filmés comme dans un clip normal. Hype Williams vient de là.
I sold my soul to the devil. Price was cheap. Yo, it was cold on this level, cause it's twice as deep. Fucking with Queens ain't too good for a nigga's health. Where's the wealth? I'm in New York. I got to make my rounds. I do whatever for the dollar. Fuck 'em. You know me. Count your grand.
Alors, le film divise à la sortie, mais il devient culte avec le temps, parce qu'il capture un moment du hip-hop où tout devient possible, les rappeurs deviennent des mythes, les vidéastes deviennent des auteurs, et la frontière entre cinéma et clip s'efface complètement. Belly, c'est un peu la bible visuelle de cette époque, le crime stylisé, la spiritualité qui affleure, la musique omniprésente, et surtout, cette idée que le rap peut être cinéma dans sa narration, son esthétique, sa manière d'occuper l'écran. Cops for warrants, every block is boring. Friday night getting bent liquor pouring. My dog not even home a month yet and blaze a girl in the stomach. He robbing niggas who pumping. Little blood got popped by the group home cat. Everybody nervous in the hood, pulling their gas. Fiend yelling out, who got those? Go and see shorty snot nose. He don't floss, but he got dough. Thug faces, fugitives running from court. Tu parlais de Bon Jaillard, t'as parlé de Nas. On a prévu d'écouter Nas, on est bon. Donc ça c'est un morceau Grand Finale qui est présent sur la bande son de Belly. Est-ce que tu as vu ce film ou pas?
Non.
Franchement, c'est un très mauvais film, mais il faut le voir.
Mais il y a un truc où, là, ce que tu as passé, on aurait dit, tu sais, ça pourrait être l'intro d'un morceau de Prince Wally. Enfin, j'avais l'impression de
ne
pas avoir eu accès à cette culture, tu vois.
Prince Wally, je pense qu'il l'a vu 40 fois, le film.
C'est
pas possible. Qui est un film qui, encore une fois, qui n'est pas un très très bon film, si tu le prends avec un œil de... Tu vois, mais qui est tellement culte, genre... Tout est stylé,
okay.
La manière de filmer, car Hype Williams, encore une fois, c'est pas un réal de film, c'est vraiment un grand réal de clip.
Okay.
Et t'as vraiment juste envie de ressembler à DMX et à Nas dans tout le film. Donc je pense qu'il faut le voir, ne serait-ce que pour l'aspect visuel, plus que pour l'œuvre.
Ouais, puis pour se reprendre Nas, quoi, parce que
exactement.
Ce son est dedans, du coup.
Exactement,
trop chaud.
Exactement. Ouais, incroyable.
Rien que pour ça.
Et puis 4 ans plus tard, on a le film Paid in Full qui sort, produit par Rocafella, label donc de Jay-Z. Le film raconte l'ascension et la chute de 3 jeunes dealers dans le Harlem des années 80. Cameron y joue Rico, un personnage inspiré du véritable Alpo Martinez, légende du crime new-yorkais, et il crève l'écran. Son jeu est brut, nerveux, parfois improvisé. Il incarne à la perfection le charisme dangereux de ces figures mi-héros, mi-voyous que le rap adore raconter.
What's up? Nigga need some work, man. What's going on?
Ain't nothing pumping right now, B.
Come on, man. I know y'all got something.
The fuck is you deaf, man? I said we ain't got shit going on right now, B.
So niggas supposed to starve because your man got shot.
What?
Come on,
what
man.
What the fuck is you want to count the hoes, man?
Nah,
oh,
yeah, man. Oh, yeah, man.
The fuck that nigga out the car, man.
You want to count the car?
With me out the game, shit got dry up on the streets real quick. Enrico ain't showing nobody love.
Et c'est pas un hasard quelque part si c'est Rocafella, donc label de Jay-Z qui produit. Pay in Full raconte quelque part le rêve américain à la sauce rap, et peut-être qui mieux que Jay-Z incarne ce rêve américain-là. Et aujourd'hui encore, le film est cité dans les lyrics de toute une génération. Les jeunes rappeurs parlent du personnage de Cameron, les mêmes circulent, les punchlines reviennent. Pay in Full, c'est devenu une référence culturelle autant qu'un film.
Can't dig it out, lift her up, Maj, this a fuck, yo, get it out, pick one up. They want the boy Montana with guns with bandanas. Listen to my homeboy Santana.
Y'all niggas can't fuck with the, I'm telling ya, put a shell in ya. Now he bleeding, get him, call us, he wheezing, he need us, he screaming. Damn, shut up, he snitching.
Ça, c'est le morceau Oh Boy de Cameron et Joel Santana, qui est présent sur l'album Come Home With Me de Cameron, qui sort en 2002. Voilà, c'était quelques. Il y en a évidemment énormément, quelques films avec des rappeurs, puisque aujourd'hui même, donc Aurel San sort son deuxième film, dans lequel en tout cas il joue la comédie. Est-ce que toi, cette époque-là, ce rap un peu des années 2000, Cameron, Dipset, Jay-Z, t'as écouté ça aussi?
Ouais.
Tu viens aussi de là?
Bah, génération radio, et surtout, évidemment, j'écoutais Skyrock, et surtout, c'était un son que je me prenais énormément. Enfin, ouais. Tu vois, il y a eu l'album de Dre, c'est un des premiers albums que j'avais dans
Chronique 2001.
Chronique 2001. Bien sûr.
Que, parce que toi qui es producteur, est-ce que c'est aussi à ce moment-là que tu comprends ce que c'est peut-être de mettre en son des albums, tu sais, parce que Dre, il y a un peu une forme de perfection ultime quand on est du rap. Souvent les producteurs disent ça, comment ça sonne, comment c'est produit. Est-ce que tu comprends ça à ce moment-là ou
pas c'est, du c'est, tout ouais, okay, c'est pas trop du tout, je comprends pas du tout comment c'est fait. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est une sensation qui me manquera toujours de rien comprendre.
Ouais.
C'est de l'entertainment.
C'est-à-dire que maintenant, t'analyses un peu tout quand t'entends une bonne prod. Enfin, t'essayes.
Tout le temps. Et c'est ça qui fait qu'un Dre, on s'en souviendra plus que d'autres producteurs de cette époque-là. C'est ça qui fait que je réécoute Nas en ce moment pour entendre des chops de premier, etc. Mais à l'époque, j'y comprenais rien.
Ouais.
Rien du tout. C'était abstrait. Je comprenais même pas comment on jouait de la guitare. Enfin, tu vois, c'était. Laisse tomber. Hein, c'était beaucoup trop abstrait.
Est-ce que ça t'est arrivé récemment de ne pas comprendre une manière dont un morceau est fait?
Oui, quand t'écoutes de la musique. Dès que tu reviens avant les années 50, dès qu'il n'y a plus de musique séquencée, dès que tu écoutes de la musique. Je ne sais pas si j'écoute Debussy par exemple, je comprends rien.
Ouais,
tu vois.
Ok. Donc, il faut revenir sur. Il y a presque plusieurs siècles en tout cas pour vraiment comprendre, être choqué en tout cas par d'autres techniques de production.
Bah, pour moi, oui, parce qu'il y a une forme d'abstraction. Et c'est quoi le point de départ? Oui, il est au piano, mais qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est le thème? Qu'est-ce que tu as voulu raconter? Est-ce que c'est cet accord-là qui a fait que tu as commencé? C'est trop abstrait, tu vois.
Ouais.
Flying Lotus, ça m'avait fait ça aussi dans le côté musique faite sur un logiciel, mais c'est le côté par où tu commences. Mais le rap, souvent, c'est ça quand même. Il y a des boucles, des trucs. Et tu comprends comment c'est fait techniquement, mais comment t'as pensé à ça?
C'est ça, de toute façon, qui est le plus fascinant.
Tu vois,
chez les artistes.
Bien sûr. Et avec aujourd'hui, les mecs qui retrouvent les samples sur YouTube et tout, c'est un tel bonheur, tu vois, les samples du Wu-Tang et tout, genre comment il a pris ça et ça dans un morceau. Enfin, moi, je trouve ça fou.
Crayon est notre invité ce soir. Crayon, la BO de ta vie, tout de suite. Des questions, tu me donnes un morceau qui correspond.
Okay.
On en parlait un petit peu tout à l'heure. Un morceau pour te mettre en route, pour démarrer la journée.
Je pense que j'ai besoin d'un truc très feel good.
Ouais.
Pour vraiment pas allier au potentiel.
À la triste réalité de l'existence.
Au poids qui pourrait crouler sur mes épaules à peine l'œil ouvert. Un album, Just Charming Man, les Smiths, tu vois. On va prendre de la Britpop, on va prendre un truc comme ça, un peu solaire, un peu évasion, un peu désinvolte en même temps. Let's go sur les Smiths, direct.
Un morceau que tu aurais aimé produire toi-même. Tu l'écoutes et tu dis.
Aïe, 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 la grande. La grande question, ça change tout le temps, ça change tout le temps, un morceau que j'aurais aimé produire. Là, en ce moment, je vais devenir Nassis Like.
Ok, donc Nassis Like, qui est un prod de DJ premier. Donc tu parlais de Primo en plus, qui est présent sur l'album I Am, si je ne dis pas de bêtises. Qui est un album un peu mal aimé, mais avec quelques très très grands morceaux, notamment bien sûr Nassis Like. Ouais.
Juste, tu vois, créer une atmosphère comme ça, une boucle. Parce que j'aurais pu dire un morceau qui ressemble à ma manière de sonner, ou un truc de Radiohead, j'en sais rien. Mais en fait, trouver cette boucle dans ce speech de Lincoln, je crois.
Je sais, bah, tu me poses une colle, c'est possible.
C'est un speech qui a été mis en musique et il a pris un bout comme ça du violon. Et quand tu vois comment c'est découpé et tout, t'aurais aimé être au moins dans la pièce pour regarder comment le truc naît dans sa tête, tu vois. Ça, c'est. Ouais, donc j'aurais adoré pouvoir.
C'est intéressant parce que tu fais de la musique qui ressemble pas à celle du DJ premier. Mais c'est ça aussi qui peut te. En tout cas, sur l'album que tu sors aujourd'hui, même quand tu produis AMG Performance, par exemple pour Dinos dans des projets rap, je trouve que t'es pas un producteur rap traditionnel. Et Dieu sait que DJ Premier a été recopié, et c'est tout à fait normal, hein, en France. C'est vraiment, il avait tellement un son important et influent. Mais je trouve que toi, la musique que tu fais depuis que je te connais, elle est différente de ça. Mais malgré tout, c'est ça qui peut te... Quelque chose qui finalement, pas à l'opposé, mais différent de ce que tu fais, qui peut t'impressionner, en fait.
J'adore ce sujet. C'est une discussion que j'ai eu l'occasion d'avoir avec Isidio, justement, sur comment lui... Et comment le rap, de manière générale, est une musique qui s'inspirait de tous les autres genres pour en créer un. Et ma démarche était littéralement l'inverse, c'est-à-dire que je suis tellement inspiré par ce genre dont je n'ai pas les codes, dont je n'ai pas je me sentirai jamais complètement légitime d'y appartenir. Et du coup, c'est ce genre-là qui va m'inspirer à aller vers tous les autres. Et tu vois, j'ai découvert énormément de trucs en écoutant Jay Dilla. Bill Evans, j'ai découvert en écoutant Jay Dilla.
Donc Jay Dilla, qui est un producteur légendaire de rap de Détroit, qui nous a quittés, bien sûr, et qui est vraiment... un des grands architectes.
Le beatmaker sonore. Préféré de ton rappeur préféré.
Exactement.
Comme
voilà,
mais tu vois, ça, c'est vraiment une musique qui m'inspire. Un de mes premiers amours, tu me demandais tout à l'heure le rap des années 2000 et tout, c'était les sages-poètes de la rue. Vraiment, tu vois, la boucle double.
Tu parles
moi.
À mon petit cœur, là.
Bah, tu sais, Boulogne.
L'émission s'appelle à la régulière. Hein.
Mais j'ai vu que je l'avais reçu en plus. Et tout, j'ai trouvé ça incroyable. Ces boucles-là, ces atmosphères-là, avant même de comprendre le rap, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça voulait dire, juste cette
le
boucle.
Le jazz, là, ouais.
Oh, mais le jazz en boucle, je pourrais pas me farcir tout le sample, tu vois ce que je veux dire.
Je comprends tout à fait.
Tu vois, et bah, c'est exactement là que mon inspi se situe, en fait. Donc c'est hyper important, et du coup, bah, quand je vais faire du rap pour quelqu'un, ça va directement aller puiser là-dedans aussi, et c'est comment faire avec mes codes à moi, mais c'est en tout cas, c'est une des musiques qui m'inspire le plus pour faire de la musique, et pour en écouter d'autres même, tu vois.
Puisque tu viens de les mentionner, le premier album des Sages Poètes de la Rue s'appelait Qu'est-ce qui fait marcher les sages. Le single éponyme s'appelait aussi comme ça. Et on va en écouter un extrait.
Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage, à pas la rage, qui nous rend de plus en plus sauvages. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage, à pas la rage, qui nous rend de plus en plus sauvages. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage, à pas la rage, qui nous rend de plus en plus sauvages. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage, à pas la rage, qui nous rend de plus en plus sauvages. Qu'est-ce qui fait marcher les sages.
Avec mes potes, bottes, bute les blottes, clottes. Sur le beat, je flotte, crotte. Sur tes potes, si ça me botte. J'ai tellement de peps que j'éclate comme une bulle. Fixe dans mes faces, si les thèmes sont ridicules. Je spécule, peut-être, mais j'aurai plein de pécules.
Ça, c'est les années 90. Donc c'est les sages poètes de la rue, bien sûr. Et je conseille à tout le monde de regarder les clips de ce morceau. C'est intéressant parce qu'il y a tout le rap boulonné en fait qui n'est pas encore identifié. Et on retrouve dedans Booba, Mala, etc. qui sont encore des jeunes boulonnés derrière le groupe de l'époque et les sages poètes de la rue. C'est une pièce d'histoire.
C'est une pièce d'histoire et c'est une éducation que je me sens tellement reconnaissant d'avoir pu connaître ça. Parce que comme tu le dis, c'est avant le succès de Lunatic, de ces trucs-là.
Tout à fait.
Donc là, je dois avoir 6 ans, tu vois.
C'est 1995 ça.
J'ai 4 ans.
Voilà.
Donc t'imagines écouter Skyrock à cette époque-là, tu le fais un peu en cachette, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce côté interdit, ce côté, tu vois, qui est... Et ça m'inspirera toute ma vie.
Bon, j'espère te faire encore plus plaisir avec le morceau qu'on va écouter maintenant. C'est un morceau extrait de la Walk Tape, et un morceau que j'adore, qui est dans ma playlist personnelle.
Arrête.
Bien sûr, c'est un featuring entre...
Playlist matin.
Playlist matin, ou 16h du mat.
Okay,
16h de l'après-midi, pardon.
16h
tout boule. C'est un morceau de Julien Granel avec Simka qui s'appelle Ailleurs, que tu as produit.
Ouais.
Et on va s'écouter ça.
Grave.
Ça, c'est bon, ça.
Ça fait longtemps, putain.
Ça fait longtemps. Bah, c'est le moment de le mettre. Voilà. Playlist du matin.
Playlist du matin et des morceaux du matin qu'on avait fait, c'était le dernier jour de la Wall Tape avec Julien Granel. On n'avait pas encore Slimka dessus. C'était un peu une blague presque de dire, imagine là-dessus on ramène
Slimka.
Ouais, lui bah tu vois.
Voilà, c'est parti.
On l'a fait.
Let's go.
J'allume mon joint, c'est beaucoup plus facile. En cours, sans fin, elle a vu la bête en quelques secondes facile. Ah, yeah. En ce moment, en ce moment. Ah, yeah. Quand je ferme les yeux, je ne suis plus de ce monde. C'est quoi ton prénom? Je fais genre, mais je me rappelle pas ton prénom. Même si ça fait mal, même si ça se fait pas, ça sera ça le final. Même si je fais le fier, au fond tu sais ce que je vaux. Elle me coûte depuis hier. Je me rappelle plus de son prénom. Jamais je ne vis dans tes goals. Des fois je rentre dans tes rôles. Quand je te parle, je sais que ton cœur est cold. Tu veux que je le réchauffe, mais jamais je cours après toi. Je t'aime à le soleil. Ne me parle même pas de ta cola.
C'est un morceau qui s'appelle Ailleurs, donc produit par notre invité Crayon avec Julien Granel et Slimka, et qui était sur une compilation portée par l'excellente marque Walk in Paris.
Midi Maizy sur France Inter.
Crayon, je t'ai demandé des recommandations. Tu m'en as donné plusieurs, et notamment un album qui s'appelle Melt de Not for Radio. Ça, tu me disais, c'est pas du tout à mettre dans la playlist du matin, ça.
Bon, en tout cas, je recommande pas. Ça dépend de la journée que tu veux passer, mais qu'est-ce que c'est sublimissime. C'est la chanteuse de The Marías.
Ok, je connais pas. Okay.
Alors, The Marías est devenu un de ces groupes très populaires dans les deux dernières années, porté par ce renouveau du indie rock qui, moi, me fait vraiment plaisir. Ouais. On pense, tu vois, les groupes comme Crank Bean.
Ouais.
Donc, ça, c'est un peu dans cette veine-là. Et là, c'est son projet solo qui est du coup. Sonne plus solitaire, tu vois, d'un coup il n'y a plus le groupe, il n'y a plus ce truc. C'est déjà des productions assez mélancoliques et hyper léchées, mais là je trouve que c'est encore plus brut et en même temps il y a cette production. Entendre ce genre-là revenir, en fait, moi ça me fait vraiment du bien, quoi.
Ouais.
Je suis vraiment très très fan.
Parce que t'as l'impression que c'était un peu passé de mode, en tout cas que les gens prêtaient moins attention.
Oui, le son très batterie, le côté un peu ouais. Bend et tout. On a passé toute la décennie là à dire c'est la fin des groupes, c'est la fin du rock,
ouais, c'est vrai.
C'est la fin d'eux. Bon. Bah c'est la fin de rien du tout, en fait, c'est juste des cycles et, ouais. Et c'est là on est revenu à ça, je trouve.
Là, on va bientôt dire que c'est la fin du rap, peut-être. Mais on commence à l'entendre, tu sais, il y a des gens qui disent que c'est moins intéressant.
On
etc.
l'a dit en off nous-mêmes. Hein. je balance, hein, mais...
Tu me désolidarises de tes propos.
Moi, je me solidarise des miens, alors. Mais...
Ouais, ouais. Non, mais
moi, je trouve que c'est un genre, là, beaucoup moins intéressant, alors que c'était le truc qui m'excitait le plus il y a quelques années.
Tu sais pourquoi ? Parce que je pense qu'il arrive... à maturation, maturité, je sais pas comment on peut dire en tout cas, et qu'il est partout, qu'il est populaire. Donc c'est un peu le sens de l'histoire, comme quand on a dit que le rock était mort à un moment. En fait, il y a toujours des gens qui continueront à faire du rock, et la preuve, c'est qu'il y a des morceaux de rock qui marchent vraiment en ce moment, parce que je pense que c'est toujours un peu ça, c'est effectivement des cycles, et quand un genre accède à une forme de popularité immense, c'est toujours le moment où c'est un peu moins intéressant, et puis je pense qu'il y a des contre-courants qui arrivent, et ça prend des années, qui viennent le redynamiter un petit peu, je pense.
C'est vrai, je ne saurais mieux l'expliquer.
Parce que je pense qu'effectivement, comme toi, que les genres sont jamais vraiment... Il y aura toujours des gens, même quand on dit que le rock c'est mort, ou le jazz, qui vont faire des putains d'albums de rock, ou des super albums de jazz, tu vois. Mais après, est-ce qu'en tant que genre au complet... c'est un mouvement qui...
En tout cas, il y a une digestion, quoi.
Ouais.
Et là, c'est sûr que dans ce genre-là, y a dans ce qu'on, quand on parle du rap, mais c'est tellement vaste, effectivement, mais parfois, il y a des trucs qui n'ont pas eu cette digestion, forcément. Parce que oui, on peut parler de ça pour tous les genres. Parfois, la house, ça marche plus que d'autres, tu vois. Mais... ça a été, il y en a beaucoup eu quand même de, tu vois, les trucs comme Nouvelle École aussi et tout, ça a été quand même... On a vachement, comme tu dis, popularisé le truc. C'est quand même une forme d'art qui est assez singulière, et donc parfois je vais la retrouver dans la poésie d'un truc comme Feu Chatterton, plus vraiment du rap, mais si tu rencontres Arthur, il te dira qu'il est fan de ça.
Oui, bien sûr.
Et donc oui, c'est cool qu'il y ait des mutations aussi au sein de genre, c'est vrai. Mais moi, le retour du rock, il me fait plaisir. Quoi,
ouais.
Genre, vraiment.
Série, t'en as recommandé deux, Utopia et Adolescence.
Adolescence, c'était un peu inévitable, mais je sais qu'en parlant un cinéphile comme toi...
Oh, c'est bon.
Non, mais on adore le plan séquence, quand même.
On adore ça.
Tu vois, ce truc... Ah putain, je peux pas
quand
respirer.
Quand c'est bien fait, c'est extraordinaire.
C'est... Enfin, la performance, quoi. Ouais.
T'as des plans séquences comme ça que...
Du coup, je suis en auto-promo. Tu vois, on a fait le clip d'Obsafe en plan séquence et j'y étais vraiment attaché.
Okay.
Et après, dans le cinéma en tant que tel, j'en ai pas là qui me viennent en tête, mais. Ah si, j'en ai un, mais il est horrible du coup. C'est évidemment irréversible.
Ah oui, oui.
Là, quand je l'ai pioché dans mes
souvenirs. C'est vrai que c'est un plan séquence atroce, mais effectivement.
Mais c'en est un. Et en plus, du coup, d'autant plus traumatisant avec la scène, etc. Mais c'est la première fois que je captais un peu ce que c'était que le plan séquence aussi, ce truc de. Pourquoi on va imposer ça de cette manière au spectateur. Et c'est vrai que ce truc un peu, un peu étouffant, parfois je vais chercher ça dans la musique aussi, tu vois, des morceaux où tu t'es en apnée pendant 5-6 minutes, créer comme ça cette tension, et donc Adolescence, pour ça, c'est exceptionnel. Et Utopia, parce que, j'allais pas dire Black Mirror, mais ce truc un peu aussi dystopique, etc., moi j'aime bien quand même. Tu vois.
Crayon ?
Ouais.
C'est l'heure ?
Ah.
De la question qui tue.
Ah.
Alors, depuis tout à l'heure, on parlait de Daft Punk, de Dr. Dre, de Jay-Z, etc., de Pharrell. Qui est pour toi le ou la plus grand producteur des 30 dernières années ? Producteur, productrice ?
Ouais, c'est vraiment la question qui tue.
Ah bah oui, c'est une question chiante, bien sûr.
Ouais. Bon, si je prends ta liste...
Non, c'est pas forcément ma liste, hein. Ça peut être autre chose. Hein.
Non, mais t'as cité les deux que j'allais qui allaient combattre un peu dans mon esprit. Et en même temps, du coup, on est resté au monde du rap. Est-ce que, quelque part, le plus grand producteur... On a dit 30 ou on peut pousser plus loin ?
Tu peux pousser plus loin.
Et du coup, je vais faire exprès de prendre ni Jay Dilla ni Pharrell. Et on va parler du producteur originel, qui est George Martin.
Ah, ok.
Parce que, comme on parle du retour des groupes, etc., on a l'image du producteur, soit sur la MPC, sur Ableton et tout, mais ce mec qu'on n'a jamais vu sur scène, qui est plus vieux que le groupe en question, qui est, parce qu'on, tu vois, oui, avant qu'il y ait Quincy Jones encore, donc avant, tu vois, le plus grand producteur des plus grands producteurs, il y a un mec qui, pendant que le groupe dormait, a pris un son, en a pris un autre, et il a dit, j'ai mis les deux ensemble, et c'est ça votre chanson, tu vois. Et il faut le célébrer, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, peut-être quelques années maintenant. Mais voilà, le cinquième Beatles, le légendaire, pour le plus grand producteur de tous les temps, finalement.
C'est vraiment une réponse à la crayon, ça.
Voilà, mais il la fallait. Sinon, j'allais dire Jay Dilla, et on m'aurait dit, oui, mais c'est évident. Et en fait, tu peux faire du rap avec les techniques de George Martin, tu peux faire de la pop avec George Martin, tu peux faire de la musique orchestrale, tu peux tout arranger, tu peux penser à un morceau... en mettant que des cordes comme Eleanor Rigby, il y a un pouvoir de une force de proposition en fait qui est très peu racontée, parce que le génie de Lennon et McCartney il est accessible, mais ce que lui a fait quand même derrière, c'est énorme. Donc voilà, la réponse à la crayon, on l'a voulu.
Parfait, et on l'a eu.
Et on l'a eu.
Crayon, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. On rappelle que l'album Home Safe est sorti ce vendredi. Allez l'écouter, évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir aussi généreux. Ce soir, une émission préparée par Alexa Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Coy. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Clément Berman et Guillaume Roux. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous recevrons Boombas, qui viendra nous parler de Cassius, évidemment. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. We'll be right back.